femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Komm mit mir aus bloß. Ich will dich, ich will dich, ich will dich bloß.
Und femme. C'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Onde Femme Radio Zone 93.8. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous inviter à une rencontre avec une femme sénégalaise dans Remue-Ménage. Rappelez-vous, Remue-Ménage, c'est le lieu de rencontre des femmes, Onde Femme en général. Et c'est aussi l'occasion de donner la parole à des femmes qui travaillent, qui ont des projets, soit qui vont dans le cadre des femmes, soit d'autres projets. Mais histoire qu'on sache que des femmes s'engagent aujourd'hui pour travailler à la progression des droits des femmes et tout simplement la progression du monde en général. Binta Sarr, elle est sénégalaise, elle est une de celles-ci. Elle travaille à l'Association pour la promotion des femmes, donc dans son pays au Sénégal. Et elle est venue à Genève, invitée lors d'un colloque dont je vous ai parlé, qui a pour titre « Économie et rapport entre les hommes et les femmes ». C'était à l'IED et à l'invitation de l'IED et de EFI, Espace Femmes International, il y a de cela quelques semaines. Et Binta Sarr est intervenue pour parler des effets de la restructuration économique que connaît l'Afrique en général et plus particulièrement des effets de la restructuration économique sur la situation des femmes. Alors Viviane l'a rencontrée à l'IED lors du colloque et bien sûr a souhaité la rencontrer. Alors, tout de suite, je vous propose que nous aussi, nous partions pour la rencontrer. Et tout de suite, eh bien, pour commencer, tout naturellement, Viviane a demandé à Binta Sarr. Qu'est-ce que l'association pour la promotion des femmes qui se dit APROFES, Binta Sarr?
L'association pour la promotion de la femme sénégalaise, APROFES, est une organisation d'appui aux initiatives des femmes à la base. C'est une organisation qui travaille pour le renforcement du pouvoir économique des femmes, mais aussi pour la promotion des droits des femmes à travers des activités productives, appuyer les femmes dans les activités liées à l'agriculture, à l'élevage, les activités liées au petit commerce, en mettant à la disposition des femmes un petit programme de crédit. Mais en même temps, autour de ces activités économiques, la Professe développe tout un programme d'information, d'éducation et de communication, des programmes d'information sur les droits des femmes, des programmes d'information sur les questions de leadership, des programmes d'information aussi sur les questions de violence faites aux femmes.
Alors, comment est-ce que vous participez à ces projets productifs? Vous mettez en place des projets productifs, des collectifs de femmes qui travaillent, par exemple, dans l'élevage ou dans l'agriculture ou dans les potagers ou comme ça? Ou est-ce que c'est simplement vous soutenez des projets de femmes ou des projets d'une femme qui viennent vous voir en disant « j'aimerais faire ça, comment est-ce que je peux mettre ça sur pied ?»
Nous ne mettons pas en place des programmes parce que, je vous l'ai dit au début, la Professe est une organisation d'appui aux initiatives des femmes. Donc, ces projets sont initiés par les femmes elles-mêmes, suivant les besoins et priorités exprimés par ces femmes. Et nous, au niveau de la Professe, on essaie de les appuyer à réaliser leurs projets.
Alors, peut-être pour concrétiser, raconte-nous un projet que vous avez, une initiative que vous avez soutenue. Comment vous l'avez soutenue?
Actuellement, nous sommes en train de développer un projet assez innovatif avec 12 villages. Un projet qui concerne d'abord les femmes, initié par les femmes, mais ce sont les femmes qui développent ce projet, les femmes de la communauté, en collaboration avec les hommes. Parce qu'au niveau de cette communauté, le problème prioritaire pour les femmes, c'était l'eau. Donc les femmes allaient chercher l'eau à 5 à 6 kilomètres. Donc c'est une corvée d'eau très importante. Les femmes mettaient 5 à 6 heures pour aller chercher l'eau. Et cela constituait un facteur bloquant pour ces femmes pour participer à d'autres activités de formation, des programmes d'alphabétisation et autres. À partir de ce moment, avec ces femmes, nous sommes engagés dans un programme de recherche de financement pour réaliser ce programme. Il y a une ONG française qui est venue pour appuyer ce projet, donc pour réaliser un forage pour ces 12 villages. Et ce qui est important, c'est la mobilisation, parce qu'il y a une partie du financement aussi avec la participation des populations. Donc les populations vont participer pour 10% du projet, les hommes et les femmes. Ce qui est important à ce niveau aussi, c'est qu'au niveau de la communauté, les 10 villages réunis ont formé un comité intervillageois avec une distribution équitable des rôles et responsabilités entre les hommes et les femmes. Donc si au niveau d'un comité, d'un village, c'est un homme qui est président, c'est une femme qui est trésorière. Si c'est une femme qui est présidente, c'est un homme qui est trésorier. Donc les hommes et les femmes participent à la prise de décision au niveau de tout ce processus.
Et ça s'est bien passé parce que parfois on se dit que les femmes africaines ont de la peine à affirmer un pouvoir. Et là, ça s'est passé comment?
En général, on dit que c'est difficile, mais je pense que toujours c'est une question d'approche. Donc c'est un travail qu'il faut engager et planifier dans le long terme, parce que c'est des changements qu'il faut, et ces changements, on ne peut pas les changer en une seule journée ou en deux jours. Donc il y a des changements que nous pouvons avoir dans le court terme, mais il y a des changements qu'il faudra attendre dans le long terme. Mais l'essentiel, c'est de déclencher un processus vers ce changement. Et nous, on peut dire, au niveau de cette communauté, le processus est déclenché vers ce changement. Parce que les femmes et les hommes arrivent à se réunir sous l'arbre à parable, arrivent à organiser une réunion, arrivent à discuter ensemble sur la gestion de la communauté. Et je pense qu'à partir de ce moment, on peut dire que quelque chose est déclenché vers un changement.
Et c'est dans ce cadre-là, par exemple, que vous faites ces formations pour le leadership?
Oui, c'est dans ce cadre-là que nous essayons de mettre en place des modules, donc pour le leadership, pour renforcer la confiance et l'estime en soi des femmes. Parce qu'en général, au début, quand vous commencez à travailler avec les femmes, vous sentez déjà que ces femmes ont perdu toute confiance et toute estime en elles-mêmes. Et le premier travail qu'il faut faire, c'est d'abord d'essayer de rétablir cette confiance et cette estime en soi. Et je pense que c'est un préalable très important pour démarrer tout autre programme de formation et d'information.
C'est Nahawa Doumbia qui vient du Niger qui nous accompagne lors de cette rencontre avec Bintassar qui participe à l'association pour la promotion des femmes au Sénégal. Bintassar, que Viviane a rencontré.
c'est une compagnie de théâtre. Est-ce que c'est un moyen pour vous de faire cette information et cette formation?
Oui. Le théâtre, au début, on n'a pas pensé développer un programme de théâtre. Mais sur le terrain, nous avons rencontré des difficultés. Nous avons rencontré des difficultés parce que ce n'était pas facile de mobiliser par des conférences ou des séminaires les femmes. Les femmes qui sont à 93% analphabètes en milieu rural. Donc, il fallait trouver donc, un autre moyen pour essayer de les mobiliser. Et on a utilisé le théâtre. Parce qu'en Afrique, le théâtre a une grande capacité de mobilisation des populations. Donc, quand le tam-tam tape, donc toutes les femmes et tous les hommes du village sont là. Et maintenant, on fait une pièce de théâtre. Après, on discute ensemble. Et on essaie de trouver des alternatives ensemble.
Vous avez fait quoi comme pièce, si je peux dire? Qu'est-ce que vous avez... Quel thème vous avez abordé avec le théâtre?
Avec le théâtre, on aborde des thèmes très variés. Nous travaillons sur les problématiques du sida, le planning familial. Nous travaillons sur les questions de leadership féminin, l'accès des femmes au pouvoir politique. Parce que quand il a fallu préparer les élections, il fallait mobiliser de toutes les femmes de tous les partis politiques pour élire des femmes à la direction de ces partis. Parce qu'on se rend compte à la direction des partis et des syndicats, les femmes sont très sous-représentées. Mais aussi, nous développons aussi des thèmes donc sur les questions économiques pour mieux appuyer les populations à mieux comprendre la situation économique et politique. Ce n'est pas facile et c'est pour cette raison qu'on ne travaille pas avec le théâtre seulement au niveau national. Nous venons de terminer une tournée théâtrale en Europe qui nous a conduits en France, en Belgique, au Luxembourg et en Hollande. Et pour cette tournée, la pièce s'appelait « Quitter les ténèbres ». Donc c'est une pièce qui parle de l'impact des réformes économiques, la mondialisation de l'économie, donc sur les populations africaines et aussi les alternatives des Africains. Et pour nous, c'était important d'avoir une voix du Sud au Nord qui parle de tous ces problèmes.
C'est un théâtre de femmes?
Non, ce n'est pas un théâtre de femmes. Parce que la Professe est une organisation créée et dirigée par des femmes, mais la Professe est gérée par des hommes et des femmes. Donc au niveau de la troupe, nous avons des hommes et des femmes. Donc c'est 12 comédiens, 6 hommes et 6 femmes.
Angélique Kidjo sur Onde Femme, Remue Ménage, Radio Zone 93.8.
Alors, vous avez évoqué le problème justement de l'effet de la globalisation, de l'économie et de l'ajustement structurel que la Banque mondiale impose maintenant à presque la totalité du monde. Quels sont les effets que vous voyez, vous, sur le terrain, sur les femmes et plus généralement sur la population?
Les effets, c'est surtout au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture. Donc, à tous les niveaux, depuis presque la fin des années 70, on constate une réduction des budgets. Et cette réduction des budgets se concrétise sur le terrain par une réduction des investissements. Donc, on construit moins d'écoles. Au niveau de la santé, il y a une diminution du nombre des agents de la santé. Et ça, cela a beaucoup de répercussions sur le plan social, au niveau des populations, surtout au niveau des femmes. Parce que quand on voit les taux de scolarisation des filles est un taux beaucoup plus bas que celui des garçons. Donc, s'il y a des réductions au niveau du budget de l'éducation, donc ce sont les femmes qui vont beaucoup plus encore ressentir donc, cette différence.
Mais, par exemple, vous disiez qu'il y avait 90% des femmes analphabètes dans le milieu rural. Est-ce que le taux de scolarisation des filles a diminué depuis la mise en place de ces plans d'ajustement structurel?
Oui, depuis la mise en place de ces plans d'ajustement structurel, parce que après les indépendances, on avait eu un accroissement de ce taux de scolarisation. Mais après, c'est un taux de scolarisation qui augmente, mais ça augmente très faiblement ce taux de scolarisation. Parce qu'actuellement, on devait atteindre les taux de 70%, mais actuellement, jusqu'à présent, nous sommes à un taux très faible de 55%.
Donc, en fait, ça n'a pas vraiment baissé, mais ça s'est stagné.
Oui, ça s'est stagné. On n'a pas eu l'évolution souhaitée au niveau de la scolarisation, bien qu'il y a beaucoup d'efforts au niveau national, il y a beaucoup d'efforts pour élever ce taux de scolarisation. Il y a des efforts du gouvernement, il y a des efforts de beaucoup les associations d'enseignants, les syndicats à tous les niveaux, les ONG font beaucoup d'efforts pour améliorer ce taux de scolarisation. Mais toujours nous sommes confrontés à ces difficultés de coupures au niveau des budgets.
Thank you.
Depuis que la Grameen Bank au Bangladesh a prouvé qu'il était possible de prêter de l'argent aux plus pauvres et en particulier aux femmes, eh bien le microcrédit occupe, semble-t-il, une place de choix dans l'aide au développement. Il y a 7000 institutions aujourd'hui de microfinancement réparties un peu partout à travers le monde pour 9 millions de personnes qui bénéficient de ces prêts, de ces facilités de paiement. Eh bien, au Sénégal, ça existe aussi. Binta Sarr nous en parle, mais vous verrez qu'elle est un petit peu critique par rapport à cette situation-là. Binta Sarr, en compagnie de Viviane.
Alors, vous avez dit que lors des palabres et avec le théâtre, vous cherchez aussi des solutions. Quelles seraient les solutions ? Quelles seraient des alternatives par rapport à la situation que vous voyez sur le terrain, lors de ces... Je pense qu'il y a à la fois un constat du fait que la situation s'empire, mais j'imagine que vous pouvez proposer des alternatives, en tout cas.
Oui, je pense que les alternatives, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux, on doit s'engager dans ce processus de recherche d'alternatives, au niveau des organisations de femmes, au niveau des syndicats, au niveau des partis politiques. À tous les niveaux, on doit chercher des alternatives. À notre niveau, ce que nous essayons de faire, face à une économie marchande, nous essayons de développer des activités d'économie sociale, des activités d'économie solidaire. Donc, on développe des programmes de financement alternatif par le petit crédit. On met en place des banques qui sont créées et gérées par les femmes et pour les femmes. On développe aussi ce qu'on appelle les banques de céréales.
Alors, parle-moi un peu plus concrètement de ces banques pour les femmes et gérées par les femmes, et puis ensuite on parlera de ces banques de céréales.
Les banques créées pour les femmes et par les femmes, nous avons développé un programme de crédit pendant 4 ans. Donc ce programme de crédit s'est déroulé avec beaucoup de succès. Les femmes ont pu développer de l'épargne propre, mener des activités économiques, et avec ces activités économiques, elles ont pu épargner. Et avec cette épargne, elles sont arrivées à mettre en place une banque, donc une banque alternative, qui est gérée par les femmes elles-mêmes.
Donne-moi un exemple. Par exemple, je ne sais pas, il y a dans un village une femme ou des femmes qui veulent mettre en place un petit commerce, et ça marche comment, le petit crédit ?
Donc, s'il y a une caisse, au niveau des villages, nous avons ce qu'on appelle les caisses villageoises. On met donc plusieurs caisses fusionnent pour former une banque villageoise. Maintenant, si au niveau d'un village, il y a une femme ou un groupe de femmes veut un crédit, donc ils vont soumettre leur demande au niveau de la banque. Donc, la banque va examiner cette demande. Et si c'est à notre niveau, on va essayer de faire avec le groupe une étude de faisabilité participative, donc voir si l'activité est rentable ou non, et on essaie d'appuyer, de donner au groupe des conseils, et on met en place un crédit en fonction de l'épargne disponible.
Alors depuis 4 ans, ces banques villageoises ont tellement bien marché, certaines en tout cas, qu'a pu se créer une banque de femmes sur le Sénégal.
Oui, au Sénégal, il y a beaucoup d'initiatives à ce niveau. Parce qu'il y a la Profess donc, qui a mis en place donc, une banque pour les femmes. Mais il y a d'autres organisations aussi. Il y a une autre organisation qui s'appelle la FDA, Femmes Développement Entreprise, aussi qui est spécialisée en matière de crédit. Et aussi qui a mis une banque dans plusieurs régions du Sénégal. Et donc c'est ça qui montre qu'actuellement il y a des initiatives locales en matière de financement alternatif. Et c'est des initiatives qu'il faut appuyer et qu'il faut encourager.
Mais on entend parfois des critiques par rapport au petit crédit ou au microcrédit qu'on donne aux femmes, de dire, oui, bon, d'accord, maintenant, par exemple, la Banque mondiale ou la FMI dit qu'il faut prêter aux femmes parce qu'elles gèrent mieux l'argent qu'aux hommes, mais c'est toujours des tellement petites sommes que finalement, les femmes ont de la peine à s'en sortir. Est-ce que c'est aussi le cas par rapport à ces crédits dont tu parles ?
Je pense que c'est ça, parce qu'actuellement aussi, au niveau du crédit, nous avons des problèmes, parce que c'est comme si tout ce qui est petit, c'est pour les femmes. Le petit crédit pour les femmes, le petit commerce, les petites activités de maraîchage. Et je pense que les femmes ont de l'ambition au niveau économique. Les femmes veulent devenir
des entrepreneurs. Donc, elles veulent faire des activités de plus grande envergure, mais c'est les moyens qui manquent. C'est les moyens qui manquent parce que les femmes qui travaillent avec nous, chaque fois, c'est ça leur problème. Elles veulent une augmentation du crédit parce que plus elles ont de l'expérience, elles doivent développer des activités plus importantes. Et je pense qu'à ce niveau, nous devons, toutes ces institutions financières doivent essayer de voir un plan de promotion de ces femmes. Un plan de promotion et d'évolution de ces femmes de la petite entreprise vers la moyenne entreprise et vers les grandes entreprises. Et c'est à partir de ce moment que les femmes pourront participer à la prise de décision au niveau économique.
Parce que je crois que le FMI et la Banque mondiale proposent aussi ce qu'ils appellent des microcrédits aux femmes. Mais c'est quel genre de... Quelle somme, par exemple, on peut emprunter avec ces microcrédits?
Ça, je ne connais pas ces programmes. Parce que nous, notre programme de crédit, nous ne sommes pas appuyés par la Banque mondiale. Donc, nous sommes appuyés par d'autres ONG. Je ne connais pas bien ces programmes de la Banque mondiale.
D'accord. Alors, tu as parlé aussi des banques de grains. Qu'est-ce que c'est?
Les banques de céréales. Vous savez qu'en Afrique, le problème d'autosuffisance alimentaire se pose. Et en période de sécheresse, il arrive que nous sommes confrontés à des problèmes de famine. Et pour éviter ces problèmes de famine, on essaie d'avoir des stocks de céréales au niveau du village. Donc, c'est une activité génératrice de revenus pour les femmes. En même temps, ça assure la sécurité alimentaire parce que quand on fait une bonne récolte, on achète beaucoup de mil qu'on stocke au niveau du village. Donc, ça, c'est le groupement de femmes qui achètent le mil, qui stocke le mil au niveau du village. Et quand au niveau du marché, le mil arrive à devenir trop cher, où c'est une année non pluvieuse, où il y a moins de mil. Donc, à partir de ce moment, le groupe va essayer de vendre ou donner à crédit ce mil au niveau de la communauté. Et les bénéfices vont rester au niveau de la communauté. Et ça assure, ça donne un revenu au groupe. Donc, ça crée un système de solidarité. Et en même temps aussi, les femmes vont gagner de l'argent pour leur groupement.
Mais là aussi, c'est plutôt dans les mains des femmes.
Oui, en général, c'est une activité que développent les hommes, développent cette activité, mais aussi les femmes développent beaucoup. C'est parce que c'est une activité qui ne demande pas beaucoup de temps. Une fois elles achètent le mil est stocké. C'est pas comme les autres activités qui demandent beaucoup de temps. Donc la femme ne paie rien pour cette activité. Elle n'est pas surchargée de travail.
Mmh.